Seigneur nous dirige. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment glorieux que tu nous accordes, un moment pour partager des expériences, partager, Seigneur, un vécu dans ta présence et que nous puissions, Seigneur, nous enrichir de ce temps. Nous prions, Seigneur, que les mots qui seront partagés, les paroles qui seront prononcées soient guidées par ton esprit et qu'elles puissent, Seigneur, susciter une dose, Seigneur, d'encouragement, une dose, Seigneur, de force nouvelle pour mes frères et mes sœurs et une dose, Seigneur, d'engagement encore plus profond chez eux envers toi. Alors je bénis, Seigneur, chacune des personnes qui se joignent à nous ce matin en direct, comme ceux, Seigneur, qui verront cette vidéo plus tard par le truchement de l'Internet. On te demande, Seigneur, que cette même grâce que tu nous accordes en cet instant même, tu puisses aussi l'accorder, Seigneur, à tous ceux et toutes celles qui entendront ces mots en différé. Que ta présence se fasse sentir et que ta grâce, Seigneur, soit répandue dans nos pensées, dans notre être, dans notre corps, dans notre esprit, notre âme, et que ta provision pour aujourd'hui soit manifeste. Alors merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent, merci pour ce que tu fais encore et ce que tu continueras à faire jusque dans l'éternité. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors je relis pour vous le passage qui était nôtre cette semaine dans Ésaïe au chapitre 52, le verset 7, qui nous dit « Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne encore. » Je répète une dernière fois, « Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne encore. » Comme vous avez eu l'occasion de l'entendre, bon, pour ceux qui me connaissent davantage, vous savez déjà une partie de l'histoire, et pour ceux qui ont été reconnectés avec moi à travers cette période de pandémie, vous m'avez entendu dire qu'il y a maintenant un peu plus de 5 ans, j'ai eu une péripétie ou un début de péripétie avec le système de la santé. En fait, tout a commencé à l'été 2014 avec une enflure à la cheville. Je me trouvais à ce moment-là au Nicaragua pour tout simplement 3 ou 4 jours de formation avec les pasteurs que nous avons là-bas. Et c'était des journées complètes. Vous devez savoir qu'au Nicaragua, particulièrement en Managua, on appelle ça un four. Parce qu'il fait très chaud et c'est très, très humide. Le Managua est comme dans une cuvette avec des montagnes tout autour et un lac assez important juste aux abords de la ville. Donc, la chaleur, l'humidité fait en sorte que nos membres peuvent enfler. Et après la première journée, je me suis rendu compte qu'effectivement, ma cheville au pied gauche, la jambe gauche avait enflé. Et avec mon traducteur, le frère Léonel, qui m'accompagnait pour l'occasion, on s'est dit que c'était probablement le voyage en avion, 12 heures à rester assis, faire en sorte que j'enfle un peu de la jambe. Puis après ça, passer 12 heures debout à prêcher aux gens, ça devait avoir eu son lot de problématiques. Donc on s'est dit, en revenant à Montréal, bien sûr, en me reposant, ça va passer. Et là, on était à l'été 2014. Et comme tout bon gars, et comme tout mauvais patient, j'ai attendu. J'ai attendu avant de consulter et l'enflure n'est pas partie. Ce que j'ai fait, c'est qu'en arrivant vers la fin de l'année 2014, j'ai fait la promesse à mon épouse que une fois la période de jeûne de début d'année que nous avons traditionnellement, au début de l'année, une fois que cette période de jeûne serait passée, j'irai consulter. Alors, quelque part au mois de janvier, j'ai commencé à consulter d'abord dans des cliniques sans rendez-vous, puis à l'urgence parce qu'on ne trouvait pas ce que j'avais. On faisait un tas de tests, on faisait un tas de radiographies et on n'arrivait pas à identifier ce qui faisait que l'enflure à la cheville restait de façon permanente. Et l'urgentologue qui m'a reçu une énième fois pour me dire que tout était beau, a décidé qu'elle pouvait peut-être me confier ou confier mon dossier à un podiatre ou à un orthopédiste plutôt, qui avait de l'expérience et qui peut-être pourrait voir quelque chose parce que tous les tests s'étaient avérés négatifs. Donc, elle m'a envoyé effectivement voir cet orthopédiste et lui a demandé qu'on reprenne les radiographies de ma cheville, toujours dans le même hôpital, mais qu'on prenne un angle tout particulier. Et lorsque les radiographies sont revenues quelques minutes plus tard, il a pointé à un endroit sur la radiographie et il dit « ce point noir est pas logique ». Donc, à partir de ce moment-là, j'ai su que j'avais une masse à la cheville. On a fait différents tests, on a fait résonance magnétique, différentes imageries pour confirmer qu'effectivement la masse était là. Et on nous disait que la masse était la grosseur d'un gros œuf et que possiblement il fallait l'enlever. Donc cet orthopédiste a fixé un rendez-vous qui était le 15 avril 2015. On a donc supprimé la masse et de surcroît à ça, on a enlevé une partie de l'os, non pas de la cheville, on parle souvent de la cheville, mais c'était plutôt juste au-dessus. C'était au niveau du tibia, donc le bas du tibia de la jambe gauche. On a donc enlevé une partie de l'os qu'on a remplacé par une greffe synthétique pour que la cheville puisse continuer à fonctionner. Et on a envoyé la masse. Et le tibia, le morceau de tibia qu'on avait prélevé, on l'envoyait en pathologie pour voir ce qui en sortirait. Un mois plus tard, le 15 mai 2015, c'est là que j'ai eu le diagnostic officiel qui disait que j'avais des métastases, que c'était une masse qui était maligne, une tumeur qui était maligne, et que on avait trouvé une protéine un peu spéciale qu'on appelait la mucine, qui n'avait pas de raison d'être à cet endroit-là. Donc, on m'a fait un tas de scans, un tas de dans les minutes qui ont suivi là, après le diagnostic. On m'a fait scan osseux, scan du cerveau. On m'a envoyé faire des CT scans, un autre tas d'imagerie. Et sans nécessairement trouver quelle était la source primaire du cancer. Alors, le jour où on m'a donné le diagnostic, je savais déjà, à partir de ce premier diagnostic, que j'étais déjà considéré comme étant un cas de cancer à stade 4, parce que la masse primaire qu'on n'avait pas encore trouvée s'était répandue ailleurs, puisque la cheville était juste une conséquence d'un cancer primaire. Donc, on a analysé le tout. Et la chose qui a orienté un peu les recherches pathologiques, c'était que la mucine, la protéine qu'on avait trouvée, devait initialement ou appartient initialement au système digestif. Donc, on a orienté les recherches vers un cancer qui était d'ordre gastrique. Ce que vous devez savoir, c'est que dans les heures qui ont suivi ce premier diagnostic, c'était l'hécatombe. Daphné et moi, on était les seuls présents dans la salle ou dans le cubicule du médecin lorsqu'il nous a annoncé la chose. On est sortis, il y avait mes deux belles-sœurs qui étaient à l'extérieur, Jonathan, Mariana, et qui ont vu notre visage et qui ont compris qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait. Sur le coup, j'ai pas pleuré. Daphné non plus. On essayait de se contenir. Pendant qu'on faisait des tests, ou entre chacun des tests, j'ai eu l'occasion de texter mes proches, mes parents, mes intimes et mes collègues, en leur disant, voilà, on a eu un diagnostic, c'est un diagnostic de cancer. S'il vous plaît, laissez-nous 48 heures, 72 heures, simplement pour décanter la nouvelle et après ça, vous viendrez nous visiter. Mais pour l'instant, laissez-nous, Daphné et moi, seuls. Et en rentrant à la maison après tous ces examens, ben, c'est là où le trop-plein d'émotions s'est mis à jaillir. Donc pendant environ 12 heures, On a tout simplement vidé des boîtes de Kleenex, Daphné et moi. Pendant 12 heures, on a pleuré, on a pleuré, on a pleuré. On n'échangeait aucun mot parce qu'on n'avait pas de mots. Parfois, il y a des situations qui arrivent dans nos vies, des choses qui nous tombent dessus et on n'a pas les mots même pour exprimer ce qu'on voudrait exprimer. Donc, on a tout simplement vidé des boîtes de Kleenex. On est allé se coucher en pensant que la nuit apaiserait la chose, mais on n'a pas dormi du tout de la nuit. Le lendemain matin, quand on s'est réveillé, Daphné est allée dans son bureau, une pièce qu'elle avait aménagée dans la maison, tout simplement pour lire sa Bible, pour prier, ce qu'elle avait fait de façon indépendante et ce que j'avais fait aussi par moi-même. Et j'ai texté Daphné et je lui ai dit, mais reviens dans la chambre, on va prier parce que sinon on va devenir dingue. J'ai vraiment utilisé ce terme-là. On va devenir dingue. Et elle est revenue dans la chambre et j'ai fait une courte prière. Une prière que je savais que j'allais prononcer. Parce que lorsqu'on te dit que tu as une masse, tu as le temps de réfléchir. Et j'avais déjà avisé Daphné, j'avais déjà dit, un matin au restaurant alors qu'on déjeunait. Elle m'a dit, c'est pas vraiment l'endroit pour parler de ça. Mais je lui avais dit, regarde Daphné, je sais ce que veut dire une masse, je sais ce que veut dire une tumeur, et ça peut être critique. Et je dis, si Dieu veut se glorifier dans tout ça, ben je ne crois pas qu'il se glorifierait simplement avec un mal de tête. Ça pourrait être compliqué. Donc, j'avais eu le temps psychologiquement et émotionnellement de me préparer, mais quand la nouvelle est tombée, ben là, ça te laisse de pan. Et donc, ce matin-là, le lendemain du diagnostic, on a fait une courte prière. J'ai juste dit à Dieu, regarde Seigneur, c'est correct. Je veux que ce soit clair entre toi et moi que c'est correct. Si tu veux me ramener à la maison, c'est correct. Si tu veux me garder ici, c'est correct. La seule chose que je te demande, Seigneur, c'est de prendre soin de l'Église et de prendre soin de la famille. C'est la seule chose. Par contre, je veux que ce soit clair entre toi et moi, Seigneur. C'est correct. Je ne te dis pas quoi faire. Je ne te demande rien. Je te demande juste de prendre soin de la famille et de l'Église. Et après ça, tu fais ce qui est bien. Et bon, mais par la suite, j'en ai suivi, bien sûr, une panoplie d'examens. L'examen qui a révélé où était la source primaire du cancer a été une gastroscopie, une caméra qu'on fait rentrer. J'ai eu la colonoscopie qui s'est avérée négative. Et quelques instants après, donc, ils ont passé la caméra depuis la bouche et ils sont descendus. Et ils étaient à peine rentrés que le médecin s'est exprimé ou s'est exclamé en anglais, We got it. On l'a trouvé. Et on l'a trouvé, c'était une masse de 10 cm. Au niveau de l'œsophage. Encore là, la grosseur, plus gros même qu'un gros œuf, 10 cm au bas de l'œsophage. Et logiquement, la réaction première des médecins, c'était que logiquement, avec une masse aussi grosse, je n'aurais pas dû être capable de manger, de boire et même de parler. Et pourtant, je faisais de l'embonpoint, j'aimais la cuisine, je continuais à cuisiner. Et étant prédicateur ou pasteur, ben, j'étais amené à parler régulièrement et ça n'avait jamais affecté ma capacité à parler ou à m'exprimer. Donc, ils m'ont envoyé voir le spécialiste numéro un au Canada et possiblement en Amérique du Nord, dans un hôpital du centre-ville de Montréal. La réaction première de ce médecin a été de dire, Gare Florent, on ne t'opère pas. Tu vas faire la chimiothérapie, puis on suit la chose. Plus tard, des années plus tard, je pense que c'est l'été dernier, il y a peut-être un an, donc 4 ans plus tard, le médecin m'a dit que son idée première à lui, c'est qu'un cancer de l'œsophage en stade 4, on n'opère pas ça. On donne de la chimio et puis on attend que les choses se passent. On laisse plus ou moins partir le patient. Et c'était ça qu'il avait en tête. Mais j'ai été entouré de prières, j'ai fait 9 sessions initiales de chimiothérapie, après quoi on a repassé les caméras et on a repassé tous les tests pour se rendre compte que la masse avait réduite, s'était réduite de 50%. Et là, le chirurgien, la sommité au niveau des cancers thoraciques et de l'œsophage, m'a rappelé et m'a dit, regarde Florent, il dit, ce que je vais te dire, je ne le dirai à personne, Mais si mon frère avait la même pathologie que toi, voici ce que je lui conseillerais. Et je te répète, ce que je dis ne sera pas inscrit dans des livres de médecine que j'écris moi-même et dans mes recherches parce que c'est illogique. Mais il dit, regarde, avec ton âge, avec la façon dont tu réponds à la chimiothérapie et avec cette masse qui réduit, je te conseillerais de considérer l'opération. Et moi, j'avais dit, j'allais prendre tout ce que les médecins allaient me dire, que pour moi, ça allait être tout simplement Dieu qui guidait leurs mains et leurs décisions. Donc, j'ai dit au médecin, il n'y a pas de problème. Et il me dit, mais avant que je ne t'opère de l'œsophage, et l'opération, c'était d'enlever la masse au niveau de l'œsophage, et par la suite, voir si on continuait ou pas le traitement de chimiothérapie. Mais le médecin me dit, avant ça, j'aimerais quand même que tu retournes vérifier la cheville, voir ce qui se passe. Et il m'a envoyé encore là chez un des plus grands spécialistes, soi-disant à Montréal, concernant l'orthopédie. Je dis soi-disant parce que j'ai eu un mauvais contact avec ce médecin. En fait, à chaque fois que je parle de mon expérience avec ce médecin, tout le monde sait de quel médecin je parle et tout le monde me dit c'est bizarre parce qu'il est vraiment le meilleur dans son domaine. Ben, je suis allé effectivement voir cet orthopédiste qui était à la fois orthopédiste et oncologue. Et lui, après 2 minutes dans son bureau, il me dit, regardez, monsieur Giacomin, moi, si j'avais été votre orthopédiste initial, je vous aurais coupé le pied. Parce que de toute manière, ce qu'on a fait, c'était simplement retarder le processus. Et dans 4 ans au minimum, vous allez revenir me voir et puis vous allez demander à ce que je vous coupe le pied parce que le cancer va réapparaître. Et il me dit, et l'opération que vous apprêtez à avoir à l'œsophage est de loin tellement plus compliquée que de se faire couper un pied. Donc ça, il me dit ça après 2 minutes dans son bureau. Et moi, je le regarde et je lui dis, mais regardez, moi, je ne vais pas prendre une décision maintenant, là. Il me dit, mais pourquoi? Je lui dis, ben, parce que je dois aller prier. Il dit, et pourquoi vous allez aller prier? Je lui dis, parce que j'ai besoin de savoir ce que Dieu veut que je fasse. Et ça, c'était une date qui était particulière. Dans la vie de mon épouse et moi, cette rencontre avec ce médecin orthopédiste oncologue s'est passée le 19 décembre de l'année 2015. Et le 19 décembre, pour ceux qui savent, c'est la veille de notre anniversaire de mariage. On allait célébrer le lendemain le 23e anniversaire de mariage. Alors, je peux vous dire que cette année-là, il n'y a pas eu d'anniversaire de mariage. Il n'y a pas eu de Noël, il n'y a pas eu de jour de l'an, il n'y a pas eu de festivités de fin d'année. Un, j'étais en période de réflexion à savoir est-ce qu'on m'ampute le pied ou pas. Et j'étais aussi dans un arrêt de chimiothérapie après 9 sessions intenses de chimiothérapie. J'étais dans un arrêt pour me préparer à l'opération pour l'œsophage. Donc, je n'étais pas nécessairement physiquement très, très en forme pour faire des réveillons de Noël ou du jour de l'an. Alors, je suis rentré à la maison, on a prié, on a prié, on a prié. Je savais que je devais revoir l'orthopédiste le 11 janvier 2016, donc environ 3 semaines plus tard, et que je devais lui donner ma réponse à savoir si je me faisais amputer le pied ou pas. Donc, j'ai demandé à mes proches collaborateurs et mes plus proches, mes plus intimes, de me dire ce qu'eux pensaient. Alors, certains disaient, non, Florent, faut pas te faire couper le pied. D'autres me disaient, oui, Florent, faut te faire amputer, faut régler cette histoire-là. Et moi, j'attendais des réponses de la part de Dieu et honnêtement, j'avais rien. J'avais pas de mots qui me venaient. Donc, j'ai dit à Daphné, je dis, on va faire un deal. J'aimerais savoir ce que toi tu me dis. Et à prime abord, elle ne voulait pas me dire ce qu'elle pensait parce qu'elle ne voulait pas influencer ma décision. Et la plupart de mes intimes me disaient aussi, regarde Florent, c'est de toi que doit venir la décision. Nous, on t'appuie, peu importe. Et Daphné me dit, non, je ne te donne pas ma réponse. Je dis, regarde, ma réponse ne viendra pas de toi. J'ai déjà ma réponse sur texto. On va faire un marché. Tu me donnes ta réponse et dès que je sais ta réponse, j'appuie sur envoyer et ma réponse te parvient à toi, donc tu sais que ce ne sera pas parce que tu m'as influencé. Et Daphné écrit donc sa réponse, elle est à côté de moi, elle me l'envoie, et sa réponse dit quelque chose genre, ben, si j'étais toi, je me ferais amputer le pied pour dire au diable Malgré le cancer et malgré la maladie et malgré l'amputation, tu ne m'arrêteras pas de faire ce que j'ai à faire. Et moi, je lui envoie ma réponse à l'instant même qui dit: je ne me fais pas amputer parce que j'ai une qualité de vie que je veux maintenir, j'ai des projets que je veux aller faire et je ne peux le faire qu'avec deux pieds. Et ces projets, c'était un, c'était l'activité qu'on a mensuellement avec l'église qu'on appelle la tablée du quartier, où on nourrit une centaine de personnes qui nous visitent à chaque mois et je suis le cuisinier principal de l'événement. Donc moi, j'avais du plaisir à avoir mon petit restaurant une fois par année où j'avais 500 visiteurs que je nourrissais avec mes concoctions et puis mes créations culinaires. J'ai dit, pour faire ça, ça me prend d'être debout. Et j'ai dit, deuxièmement, j'aimerais retourner faire de la boxe et pour rentrer dans un ring de boxe, je dois avoir mes deux pieds. Donc j'ai dit, la qualité de vie que j'ai actuellement, elle est plus celle qu'elle n'était auparavant à cause de la chimio, à cause du cancer, mais j'en ai quand même un minimum. Donc je lui ai dit, je ne me fais pas opérer. Quelques jours plus tard, on arrive à l'église et il y a un de mes assistants qui lui avait pris pour acquis que j'allais me faire opérer et amputer. Et là, je dis, non, 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 moi je ne me fais pas amputer. Et là, il me dit, regarde Florent, il faut qu'on parle. Et il me dit, Florent, tu es rendu important pour la congrégation, tu es le pasteur principal, et Dieu t'utilise à travers l'enseignement. On veut te garder le plus longtemps possible, dans la meilleure forme possible, et pour ça, ça prend une amputation. Et les mots qui me sont venus me chercher, c'était le fait que il voyait l'aspect ministériel avant l'aspect de la santé et avant même l'aspect de mon confort personnel et de mes ambitions personnelles. Et je suis retourné voir Daphné en lui disant, regarde, mon collègue, mon assistant m'a parlé de telle manière. Je le nomme pas parce que les avis des uns et des autres étaient importants et ça reste entre lui et moi. J'ai dit à Daphné, j'ai dit, mais il m'a amené ça d'une autre manière. J'ai mal réfléchi le pourquoi j'ai décidé de ne pas me faire amputer. J'ai dit, j'ai décidé de ne pas me faire amputer pour cuisiner, pour retourner à la boxe. Et j'ai dit à Daphné, j'ai dit, mais je peux vivre sans ne plus jamais retourner sur un ring de boxe. Il dit, je peux aussi vivre sans ne plus jamais me tenir debout pour cuisiner, pour la tablée du quartier. La seule chose qu'on pourrait m'enlever et que je ne sais pas comment je vivrais, outre ça, c'est si on m'enlevait le ministère. Je ne sais pas ce que je ferais sans travailler pour Dieu. Et je dis, par conséquent, il faut que je recommence à réfléchir. Donc j'ai prié, là on était rendu peut-être autour du 1er janvier. Je priais, je priais, je voyais les jours qui défilaient jusqu'au 11 janvier. Et le 11 janvier, alors que je sais que vers 14 heures, j'ai un rendez-vous pour dire si je me fais amputer ou pas, j'ai toujours pas ma réponse. Et ce matin-là, je venais d'acheter cette Bible, cette Bible-ci, qui était toute neuve. Et je vous la présente pour que vous sachiez c'était quoi et pour que vous compreniez que le passage à travers lequel le Seigneur m'a parlé, ça ne pouvait pas être simplement, ah ben il y a tout le temps l'habitude d'ouvrir sa Bible à telle page, donc le pli s'est fait, puis voilà comment il prétend que Dieu lui a parlé. Cette nuit-là, j'ai pratiquement pas dormi parce qu'effectivement, on était un lundi et je savais que je devais donner ma réponse, puis j'en avais pas. Alors, vers 4 heures du matin, je me suis levé, je suis allé m'asseoir à quelques mètres de là dans le fauteuil. Je regardais dehors, j'ai ouvert ma Bible et j'ai dit, regarde Seigneur, j'ai vraiment besoin que tu me parles parce que je sais pas ce que je vais dire au médecin tout à l'heure. Et j'ai ouvert ma Bible et je suis tombé sur ce verset qui dit, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles et qui publie la paix. Celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne encore. J'ai fermé ma Bible et j'ai dit merci Seigneur. J'ai dit merci Seigneur parce que le verset était pour moi. J'ai écrit tout de suite sur Facebook. Comme quoi, j'ai sorti ce verset-là, mes assistants l'ont lu, puis ils se sont dit, OK, il s'est passé quelque chose, Dieu a dû lui parler. Un de mes assistants par la suite est venu me dire, je savais, Florent, que finalement tu avais reçu quelque chose de la part de Dieu. Et vous allez dire que c'est futile ce que j'ai reçu, mais c'est entre moi et Dieu. Ce verset dit qu'ils sont beaux les pieds. Il ne dit pas qu'il est beau le pied. Et pour moi, le fait que les pieds étaient au pluriel, c'était ma réponse de la part de Dieu. C'était ma réponse comme quoi il avait utilisé mes deux pieds. Je suis allé quelques heures plus tard donc voir le médecin et je rencontre d'abord son interne qui lui prend pour acquis qu'on va planifier une double opération, celle de l'œsophage et celle du pied en même temps et que pendant qu'on va me couper dans la poitrine pour enlever la tumeur à l'œsophage, que par conséquent on va couper mon pied. Et j'ai dit à l'interne, non, 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 il n'y a pas question, je ne me fais pas opérer. Donc tout de suite, il sort, il va chercher le médecin qui est l'orthopédiste que tout le monde recommandait et qui est soi-disant du sommité. Et lui revient, puis là, il ne comprend pas que je ne veuille pas faire ça. Il me dit, mais tu vas revenir me voir dans 4 ans. Et entre-temps, il m'avait envoyé même à l'Institut de réadaptation de Montréal. Donc, on avait essayé de me préparer psychologiquement au fait de ne plus avoir mon pied, d'avoir une orthèse, une prothèse ou quoi que ce soit à la cheville et tout. Et ça avait été des semaines abominables, honnêtement. Psychologiquement, je trouvais ça tough de penser que j'aurais pas ce deuxième pied, puis que je ne monterais plus dans un ring de boxe, puis que je pourrais plus me tenir des heures debout à cuisiner. Donc le médecin me demande, il me dit, ben pourquoi tu ne veux pas te faire opérer? Ben je lui dis, ben je pense que Dieu a d'autres montagnes qu'il veut que je gravisse. Et je vais les gravir avec mes deux pieds. Il me dit, ben c'est correct, on se reverra dans 4 ans. Et ça c'était en 2015, en 2016, janvier 2016, et on est aujourd'hui en mai 2020, et j'ai toujours mes deux pieds. Et mes deux pieds sont intacts et mes deux pieds sont rétablis. Et il n'y a pas de forme de cancer qui est réapparue à la cheville. Bien sûr, ça n'a pas enlevé l'opération que j'ai eu à faire à l'œsophage. Et ça, ça a été la fin janvier où on m'a coupé dans le dos pour couper une partie de l'estomac parce que comme la tumeur était à la base de l'œsophage, à la jonction, de l'estomac. Donc on a coupé 5-6 cm plus bas. Donc on a retiré 3/4 de l'estomac et on a retiré 5 ou 6 cm au-dessus de la tumeur. Donc on a retiré le 3/4 de l'œsophage. Donc on a coupé d'abord ici, on a coupé par la suite dans le dos au niveau de la cage thoracique et ça a été une opération qui a duré 16 heures, à travers laquelle on a par la suite recousu, on a tiré le restant de l'estomac qu'on a joint au restant de l'œsophage pour en faire une espèce de tube. Donc, j'ai plus d'estomac. J'ai une espèce de tube depuis la gorge jusqu'aux intestins qui agit pas vraiment comme un œsophage, qui n'agit pas nécessairement comme un estomac non plus, mais c'est mon nouveau système. On m'a par la suite envoyé, on a fait des tests pendant l'opération, on a relevé 62 biopsies. Et sur les 62 biopsies, il y a eu une biopsie qui s'est avérée positive. Et on ne savait même pas à l'époque est-ce que c'était parce qu'effectivement, on a trouvé quelque part quelque chose qui était atteint ou c'était simplement un débris des choses qu'on avait manipulées pendant l'opération. Donc, on a décidé de me donner 3 autres sessions de chimiothérapie pour monter à 12. Et ces 3 autres sessions, on m'a dit qu'elles seraient très physiquement difficiles. J'avais déjà des problèmes de neuropathie à cause des 9 premières sessions de chimio. Donc les doigts qui sont engourdis, la plante des pieds que je ne sens plus et tout ça. Donc on m'a donné 3 autres sessions de chimiothérapie qui ont été atroces. Si les 9 premières, je suis passé facilement dedans. Mais les 3 autres ont été terribles, terribles avec un nouveau protocole. Et après le premier protocole, j'avais dit, après la première série qui durait 3 semaines, 2 semaines branchées avec une pompe et puis une semaine à me reposer, quand je suis retourné voir le médecin, le matin, j'avais dit à Daphné, avant qu'on aille voir l'oncologue, j'ai dit, regarde, on arrête la chimio, je ne suis plus capable. Et Daphné sait que je suis très tolérant à la douleur, que je suis assez résilient et dur avec mon corps. Donc, m'entendre dire que j'en pouvais plus, elle savait que j'étais au bout du rouleau. Et en arrivant dans le bureau du médecin, de l'oncologue, que j'appelle mon médecin grand-père parce que c'était un grand-père, un Ghanéen, qui me faisait penser un peu à la relation qu'on avait, un peu à la relation que j'aurais eue avec un grand-père. Quand je rentre dans son bureau, il est là avec deux de ses infirmières, l'infirmière pivot plus celle qui me fait les traitements de chimio. Daphné s'assoit à côté d'une des infirmières et pendant que j'enlève la chemise pour qu'il puisse voir la cicatrice, l'infirmière me regarde, puis l'infirmière pivot me regarde, puis elle a comme des yeux ébahis, puis elle dit à Daphné, elle dit, votre mari nous étonne. Et je dis au médecin, il me dit, mais comment ça va? J'ai dit, ben ça, je sais pas, j'ai dit, comment vous me voyez? Puis là, il me dit, regarde, habituellement, avec ce genre de chimio, on retrouve nos patients après 3 jours à l'urgence. Et toi, tu marches encore. Et c'est la première chose qu'il me dit, en fait, quand je pénètre dans son bureau, il me dit, hey, vous marchez? Et j'étais étonné, je me dis, mais pourquoi je ne devrais pas marcher? Et pour lui, c'était illogique que je sois aussi bien. Et il me dit, regardez, il s'adresse à Daphné à ce moment-là avec les mots que Daphné avait besoin d'entendre, je crois. Et que moi aussi, il dit à Daphné, il dit, regardez, on veut être très gentil avec Florent, mais on veut être très dur avec le cancer. Alors permettez-nous simplement de faire une autre fois encore. Et là, on arrivait à 11. Et lorsque je suis rentré après la 11e série, il y a encore sa même question, tu marches encore? Et parce qu'il me dit que je marche encore, ben, je n'avais pas le choix que de continuer. Et je fais une 12e. Et là, on est rendu au mois de juin de l'année 2016. Et avant que je ne retourne pour une quatrième session de ce protocole de 3 semaines, j'ai été revoir mon chirurgien de l'œsophage, ce numéro un au Canada, et il me dit, il parle à son assistant, puis il raconte mon histoire. En disant, ben voilà, c'est quelqu'un qui a commencé avec une tumeur à la cheville, puis on a découvert que c'était à l'œsophage, donc on a eu telle opération, puis tout ça. Et puis maintenant, il est en rémission, et puis ça va bien. Et là, Daphné lui dit, mais vous avez dit quoi? Sur le coup, le mot m'a pas surpris, mais à l'oreille de mon épouse, ça a été important, là. Et il dit, ben ouais, mais Florent est en rémission. Et il dit, mais. Comment ça en rémission? Il dit, oh ouais, il est en rémission. Et je dis, mais alors, vous allez devoir le dire à mon oncologue parce que demain, logiquement, je retourne le voir et il va commencer un autre 3 semaines de chimio. Il dit, non, non, je vais l'appeler et puis on s'arrête là. Ce faisant, j'ai eu 12 sessions en tout de chimiothérapie. 9 avant l'opération à l'œsophage et 3 par la suite. Et à chaque fois que j'allais dans une session de chimiothérapie, j'illustrais cette session-là comme étant un combat de boxe. J'avais déjà entendu un artiste québécois qui disait qu'il avait eu le cancer et qui disait à chaque fois qu'il prend la chimiothérapie, c'est comme si c'était un poids lourd qui lui rentrait dessus et t'étais KO pendant un X nombre de jours ou de semaines. Et moi, je disais non, à chaque fois que moi je monte dans un ring, c'est comme si j'avais Mike Tyson devant moi, j'avais le champion poids lourd devant moi, puis qui me tabassait pendant toute cette chimio. Et j'ai eu 12 rounds, 12 sessions de chimiothérapie, après lesquelles tant mon oncologue que mon chirurgien ont dit que j'étais en rémission. Et aujourd'hui, je ne parle pas comme quoi je suis guéri. Je mentionne encore le terme que je suis en rémission. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est atteint d'un cancer de phase 4 de l'œsophage, logiquement, on ne l'opère pas. Et mon médecin a été obligé à un moment donné de dire, on t'opère parce que ton cas est illogique. Quelqu'un qui est en phase 4 d'un cancer de l'œsophage, la littérature médicale nous dit qu'ils n'ont que 15% de chances de s'en sortir au-dessus de 5 ans. Je suis aujourd'hui, lorsqu'on calcule tout le temps depuis l'apparition de la tumeur à la cheville, je suis au-dessus des 5 ans avec un cancer de stade 4 et je suis encore vivant. Donc, deuxième erreur. On ne dit jamais à un patient de stade 4 de l'œsophage qu'il est en rémission. Mon médecin spécialiste numéro 1 m'a dit que j'étais en rémission. J'attends maintenant que lui dise que je suis guéri. Et le jour où lui dira que je suis guéri, ben là, je vous annoncerai officiellement que je suis guéri. Pour l'instant, je suis en chimiothérapie. Je suis en rémission et je suis bien en rémission. Même s'il y a eu quelques frayeurs l'année dernière, c'était simplement l'occasion de revoir l'orthopédiste qui m'avait opéré au début, puis de lui parler encore de Jésus et de ma foi. Donc, ce verset est précieux pour moi, parce que ce verset a été l'occasion pour Dieu de me dire qu'il avait encore des choses à faire avec moi, ici-bas sur terre, et qu'il allait utiliser mes deux pieds pour gravir tout un tas de montagnes, pour proclamer à Sion, ton Dieu règne, et mon Dieu règne. Alors j'espère que ce témoignage peut vous encourager. Dieu parle encore aujourd'hui. Je ne vous parle pas aujourd'hui du fait que Dieu m'a guéri. Je vous parle aujourd'hui du fait que même dans la maladie, j'étais en paix parce que mon Dieu était avec moi. Oui, j'ai pleuré. Il y a des moments où j'étais sans force. Mais ceux qui connaissent la boxe, vous savez qu'un combat de championnat du monde dure 12 rounds. Et à la fin des 12 rounds de chimiothérapie, on avait levé ma main bien haute et on a confirmé ce que mon coach savait déjà et ce que mon entraîneur savait déjà, que peu importe ce qui se passait, je sortais vainqueur de tout cela. Et la victoire dans ça, c'est pas que je sois guéri d'un cancer. La victoire dans tout ça, c'est que je suis resté fidèle au combat que mon coach avait prévu pour moi et dans lequel je sortais vainqueur. Dieu ne t'amène pas dans des situations pour te perdre. Dieu ne permet pas des situations dans ta vie pour que tu échoues. Dieu permet ces situations-là pour que tu en sortes vainqueur. Alors, quelle que soit la chose que tu vis actuellement à travers la pandémie et la COVID-19, c'est pas pour ta perte, c'est pas pour ta chute, c'est pas pour ta défaite. Avec Dieu, tu peux être plus que vainqueur. Malgré une situation tout à fait illogique que représente cette pandémie, malgré une situation tout à fait exceptionnelle que représente et terrifiante que représente probablement la COVID pour bon nombre d'entre nous. Mais si Dieu permet qu'on passe par ça, c'est qu'il a pour nous la victoire et qu'il a sorti la sortie victorieuse. Alors aujourd'hui, je vis encore de la même manière. Seigneur, si tu veux me ramener à la maison, c'est correct. Si tu veux me garder, c'est correct. Prends juste soin de la famille. Prends juste soin de l'Église. Et entre-temps, ben, je continue à gravir des montagnes pour proclamer que notre Dieu règne encore. C'est ce que je fais depuis le début de la pandémie. C'est de là que vient ma passion que certains ont noté cette semaine. Ça vient du fait que je sais en qui j'ai cru et que je sais que je m'apprête à aller le voir, que ce soit dans quelques heures ou que ce soit dans quelques décennies. Ça ne change strictement rien pour moi. Je vis l'instant présent pour être utile entre ses mains et pour être le champion dans lequel il a mis sa confiance. Et je sais que Dieu a mis sa confiance en toi pour que tu sois un champion et que tu sois une championne. Alors, mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse. Laisse-moi prier simplement pour toi ce matin, pour que tu sois victorieux, peu importe la situation. Le coach qui t'a entraîné et qui t'a amené jusque-là, ce n'était pas pour te perdre. C'était pour que tu sortes victorieux pour lui dans ce combat. Seigneur, je veux simplement bénir ma sœur et mon frère et toute personne qui m'a écouté aujourd'hui ou qui m'écoutera par la suite. Que ta grâce, Seigneur, leur soit accordée. Seigneur, à travers les problématiques et les circonstances peut-être difficiles que les uns et les autres peuvent traverser, je prie, Seigneur, que tu les soutiennes. Oui, Seigneur, j'ai découvert la paix qui surpasse toute intelligence. Je sais, Seigneur, comment tu m'as soutenu, comment tu m'as gardé, comment tu me soutiens encore aujourd'hui et comment tu me gardes encore aujourd'hui. Ce n'est pas une question, Seigneur, de rester vivant. Ce n'est pas une question même d'être en pleine santé. C'est une question de te savoir de façon tout à fait pertinente et tout à fait palpable à nos côtés. Et de savoir, Seigneur, que dans un instant, comme dans 20 ans, dans 50 ans, Nos yeux vont se poser sur toi et nos oreilles vont entendre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, tu es notre entraîneur par excellence, celui qui prépare nos mains au combat. Je ne sais pas quel est le ring dans lequel tu fais monter ma sœur ou mon frère. Je ne sais pas quel est le combat dans lequel, Seigneur, tu leur permets d'exercer. Mais je sais, ô Dieu, que peu importe la situation et peu importe la circonstance, tu ne les as pas amenés là où tu les as amenés pour les perdre et pour qu'ils soient dans la défaite, mais pour sortir victorieux pour toi. Et le combat de la foi, Seigneur, c'est parfois de tenir ferme malgré tous les pronostics et malgré la situation. La mort pour un de tes enfants n'est pas une défaite. C'est l'occasion de venir courir et atterrir dans tes bras qui nous embrassent et qui nous dit bienvenue à la maison. La maladie n'est pas une défaite. Tout comme la guérison en soi n'est pas une défaite. Ézéchias a été guéri et s'est perdu dans les 14 années qui ont suivi. Seigneur, si tu accordes la santé aux uns et aux autres, que ce soit pour te glorifier et pour vivre humblement devant toi. Mais Seigneur, soutiens mon frère, soutiens ma sœur, et qu'ils soient et qu'elles soient des champions pour toi, là où tu les as appelés à être. Étonne-les, surprends-les, par la force, par la paix que tu renouvelles en eux. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors j'espère que ce témoignage vous aura béni. Je vais simplement saluer quelques personnes qui se sont rajoutées depuis que on a débuté notre témoignage. Je remonte un peu, là vous êtes nombreux ce matin. Donc, Marta Lucia, Dieu la bendiga. Soraya, Dieu te bénisse. Sois une championne, Soraya. Sois une championne. Florence, Dieu te bénisse. Mon homonyme féminine. Louise, Dieu te bénisse. Rebecca, Dieu te bénisse. Louise et Michel, bien sûr. La sœur Thévenot et le pasteur Thévenot, que Dieu vous bénisse. Content de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Pierre, Exantus, Dieu te bénisse. Natacha, Indirene, Dieu vous bénisse. Maria Naiva, Dieu la bendiga. Marie-Huguette encore, Dieu te bénisse. Maria, Maya 4, Dieu vous bénisse encore. Marjo, Dieu te bénisse. Yann, Susanna, Teresa, la hermana Teresa, Dieu la bendiga. También que Dios bendiga la hermana Dora con usted. Je pense que c'est tout pour ceux qui se sont joints à nous. L'hermana Maggie, Dieu la bendiga. Ouais, c'est tout, je crois, pour ceux qui se sont connectés. Donc, que Dieu vous bénisse. J'espère que ça a été bénissant pour vous. Et voilà, c'était ce que j'avais pour vous cette semaine. On se retrouve ce soir pour notre temps de prière, de requête. À partir de 19h, de 19h à 20h, comme ça, ça permet aux plus jeunes de se joindre après ça à l'Assemblée des jeunes sur Zoom, mais nous, on se rejoint tous à partir de 19h sur Facebook pour notre temps de prière et de requête. Vous aurez l'occasion de transmettre vos requêtes à Daphné pour qu'on puisse les mentionner, les présenter devant le trône de grâce. Alors, sur ce, que Dieu vous bénisse et puis... passez une bonne journée dans la joie, dans la paix, dans la victoire que notre Dieu nous donne. Alors au revoir à tous, merci d'avoir été là.